Carlos Chahine, vous êtes présent à Avignon pour présenter votre tout premier long métrage, hein, c'est La Nuit du Verre d'eau, un film qui nous transporte au Liban en 1958. 1958, c'est peu ou prou l'année de votre naissance, non ?
Oui, tout à fait, peu ou prou, comme vous dites, oui, absolument. Il y a plusieurs facteurs. Il y a que c'est une époque que je trouve cinématographiquement très fascinante comme ça. Il y a aussi, surtout, la révolution de 58, cette espèce d'événement majeur, le premier bouleversement dans l'histoire moderne de ce tout jeune pays. Et j'avais envie de parler de cette révolution et du débarquement américain, parce que peu de gens savent que le premier débarquement américain dans cette région du monde, c'était à Beyrouth. Et que cette guerre qui a éclaté en 75, elle ne venait pas de nulle part. Tous les ingrédients étaient là depuis bien longtemps. Même dans l'édification de cet État du Liban, tous les ingrédients étaient là. Tout était là pour que ça prenne pas. Et on est étonné que ça n'ait pas pris. Et ça ne pouvait pas prendre, je crois. C'est facile à dire avec la distance, mais bon.
Les premières années de votre vie, les 15 premières années de votre vie, 15. Vous les avez vécues au Liban. Et ensuite, vous êtes venu en France pour fuir la guerre civile. Vous avez beaucoup pratiqué le théâtre, notamment au TNS, au Théâtre National de Strasbourg. J'ai même vu que vous aviez interprété Les Trois Sœurs de Tchekhov dans une mise en scène de Silvio Porcaretti. Et alors, si on prend les trois sœurs qui sont dans la famille, hein, je les cite, Eva, Nada et Leïla, les prénoms finissent par A, comme les trois sœurs de Tchekhov.
Ça, c'est pas fait exprès, bravo. Hein. C'est vrai. En effet, moi, Tchekhov, c'est mon grand amour depuis toujours. J'ai monté La Cerisée à Beyrouth, d'ailleurs, et dans ce film, il y a et La Cerisée et les trois sœurs pour moi. Et c'est vrai, les trois sœurs, c'est les trois sœurs de Tchekhov, bien sûr, bien sûr. J'ai adoré la mise en scène de Silvio Porcaretti. Elle était superbe. C'est un grand metteur en scène.
Qu'est-ce qui, dans Tchekhov, vous permet justement de parler du Liban de l'époque ?
La fin d'un monde et l'humanité. J'ai l'impression que le Liban est un pays qui ne cesse de finir. J'ai l'impression que depuis que j'ai accédé à une forme de raison, de maturité raisonnée, disons, ce pays ne cesse de finir. Et Tchekhov parle merveilleusement de ça, de ces mondes qui finissent. C'est peut-être ça aussi. Et de ces êtres humains qui sont placés comme ça, dans ces endroits qui sont en train de disparaître. Où il n'y a rien à dire. C'est pour ça que les dialogues de Tchekhov sont absolument merveilleux. Parce qu'ils ne disent rien. Parce qu'il n'y a rien à dire. Que dire face à la disparition des mondes. Et ça, je trouve que lui a saisi ça avec une humanité qui m'a toujours bouleversé. Ouais.
En voyant le film qui décrit une famille issue d'un milieu assez favorisé, où règne une certaine harmonie, un certain plaisir de vivre, une certaine liberté aussi. Mais au fur et à mesure que le film avance, il y a une expression qui est arrivée dans mon esprit, c'est un point de fer dans un gant de velours. Ces trois jeunes femmes semblent totalement épanouies, et en fait on s'aperçoit que derrière, il y a une oppression terrible, mais qui est très insidieuse d'une certaine manière.
C'est très très juste ce que vous dites, parce que les traditions sont surpuissantes. Et c'est vrai qu'il y a l'ambition dans cette famille, où le père est un homme plutôt aimable, et très aimant, il adore ses filles. La mère est une femme soumise, mais qui aime beaucoup ses filles. Et c'est ce que dit la Benjamine à un moment. Elle lui dit, mais pourquoi tu nous as envoyés à l'école si c'est pour nous vendre l'une après l'autre? Sauf que dans ce monde, dans ce système, dans cette société, ça marche comme ça. C'est un peu comme le guépard de Visconti. C'est la fin d'un monde, c'est la fin du monde de cet aristocrate, de ce père aristocrate. Mais il ne s'y résout pas. Il a pensé trouver une première parade en mariant l'aîné à cet homme charmant, très riche et tout ça. Et il pense que ça va perdurer, qu'il va marier la seconde avec un homme richissime et que cette maison, il va pouvoir la garder, que ces terres, il va pouvoir les garder. Parce que ce qui compte, c'est la transmission. Ce qui compte, c'est l'héritage. Ce qui compte, c'est la terre. Pour lui, ses filles doivent accepter parce qu'elles aiment cette terre autant que lui. Et quand arrive la transgression suprême, à savoir cette gamine qui va fricoter avec le paysan, là, on est dans l'inacceptable. C'est l'inacceptable absolu. Chacun est à sa place dans ce monde-là. Le cheikh est à sa place, c'est un féodal. Le paysan est à sa place. La femme est à sa place. L'homme est à sa place. Si on commence à mélanger les places, là, c'est plus possible. Et c'est là que la poigne de fer apparaît et qu'il faut faire cesser tout ça. Et c'est ce qui fait le dénouement un peu tragique de cette histoire, parce qu'il est sans issue.
Donc il y a cette famille, et puis il y a l'arrivée de touristes français, la mère et le fils, interprétés par Nathalie Baye et Pierre Rochefort. Ils sont français. Qu'est-ce que ça représentait, la France, à l'époque ?
Ça représentait l'espoir. C'est la France qui a permis ou qui a favorisé la création du Liban moderne, ce qu'on appelle le Liban moderne, le Grand Liban. C'est grâce à la France, c'est après le mandat français. C'est aussi à l'appel de certains chrétiens maronites libanais qui voulaient un État pour eux où ils seraient des citoyens de première zone pour ne pas être noyés dans un océan musulman après avoir été noyés dans l'Empire ottoman. Enfin, tout ça est un peu plus complexe que ça, mais quoi qu'il en soit, c'est ça. Donc les Français, pour les chrétiens libanais, représentent un peu les parents, les protecteurs. C'est l'Occident, c'est la chrétienté, c'est la civilisation, c'est le raffinement. C'est plus un art de vivre auquel on aimerait ressembler, un raffinement qu'on aimerait acquérir. C'est une société qu'on prend pour modèle, les Français. Donc, en effet, d'avoir cette mère française, Nathalie Baye, et son fils, Pierre, en parallèle avec cette mère libanaise et son petit gamin, la moindre parole de cette femme française a beaucoup d'impact sur cette jeune mère. Et la présence de cet homme français étranger, du coup, à cette vallée, qui n'est pas du tout dans les attributs masculins, de virilité, un peu machiste et tout ça, qui est plutôt assez tendre, assez féminin, assez effacé, finalement. C'est pas le grand séducteur. C'est pour ça qu'elle s'autorise à se jeter sur lui. Parce qu'il n'est pas dangereux, il calme son angoisse. C'est pas la fulgurance, pour moi, c'est pas la fulgurance du coup de foudre entre deux personnes qui s'attirent, mon Dieu. C'est pas la grande histoire d'amour, pas pour moi en tout cas. Je la vois pas comme ça.
Il y a des séquences qui sont très charnelles, très sensuelles, ça dépend. Il y a Leïla, lorsque elle sent les envies de son mari, visiblement, elle n'a pas du tout envie de son côté. Et puis, il y a la plénitude charnelle qu'elle a avec un autre homme. Vous montrez les corps, vous montrez le désir, vous montrez le plaisir ou vous montrez même la répulsion.
Oui, oui, c'était important pour moi. C'était important de montrer ça. Oui, je ne sais pas quoi dire. Je sais que c'était important, particulièrement de montrer entre le mari et la femme. Peut-être plus qu'entre les deux amants. Mais entre le mari et sa femme, c'était très important pour moi de montrer l'ambiguïté, de naviguer entre le dégoût et la jouissance. Oui, ça m'intéressait, ça.
Il y a un très beau travail sur la lumière aussi, je trouve, sur les paysages. Alors, c'est très frappant parce qu'il y a les paysages baignés de soleil où il y a une majesté, une plénitude extraordinaire. Puis il y a des moments, il y a des vues nocturnes qui sont extrêmement inquiétantes. On sent qu'il y a un danger qui rôde quelque part.
Oui, tout à fait. Avec le chef opérateur, Thomas Bataille, on parlait beaucoup et il y avait trois choses à développer. La femme, l'enfant et la vallée. Et la vallée était le lieu dangereux. C'était le lieu presque hanté de ces dieux antiques. On n'est pas loin de la Grèce et de la tragédie. Et de ces dieux qui manipulent les hommes. Et ces dieux se réveillent la nuit, peut-être. Ils s'amusent un peu plus la nuit. C'est comme si cette vallée était le lieu du destin qui se joue chez ces pauvres êtres humains et sur lequel ces humains n'ont pas prise. Donc c'était ça un peu, les sons, la lumière, la nuit qui tombe, le jour qui se lève sur la vallée qui parfois était inquiétant, oui.
L'enfant, il est omniprésent parce que finalement, c'est lui qui observe tout.
Oui.
Et on sent qu'il est tiraillé finalement parce que bon, c'est un garçon appelé à devenir un homme et on sent quand même qu'il a une certaine... compréhension, une certaine empathie pour ce que vivent les femmes.
Pour moi, l'enfant et la mère ne font qu'un. Ils sont dans une sorte de fusion totale. Et c'est le moment où cette fusion va se scinder, c'est le moment où ça va commencer à se lézarder, que ça va devenir complètement insupportable pour l'enfant. Parce que peut-être qu'il savait qu'il allait s'éloigner de sa mère un jour, mais pas de cette manière-là. Il ne pensait pas qu'elle s'éloignerait de lui de cette manière, qu'il ne s'est pas nommé. Il ne sait pas ce qui se passe. Tout ce qu'il sait, c'est que tu m'as abandonné. Tu m'abandonnes. Je vais dire à papa, tu n'as pas le droit. Et tout d'un coup, l'homme se révèle. Et l'homme qui va interdire à la mère des choses se révèle. Et la mère qui va abandonner cet enfant, chose inenvisageable, insupportable pour l'enfant, va commencer à faire surface, mais il n'arrivera jamais à mettre deux mots dessus. C'est l'horreur absolue pour lui d'être abandonné par sa maman qu'il adore. Donc oui, ils font qu'un. C'est presque un seul corps, la mère et le fils.
C'est un film qui se passe donc à la fin des années 50, donc il y a un travail de reconstitution. C'est extrêmement raffiné et élégant, je trouve, au niveau des décors, au niveau des costumes. Et alors, tout à l'heure, vous m'avez parlé de Luchino Visconti, bon, qui est le cinéaste de la majesté par excellence. Vous avez parlé aussi de l'arrivée des Américains. Ils ont été les premiers à débarquer au Liban. Et moi, j'ai beaucoup pensé à un réalisateur, Douglas Sirk, dont on parle beaucoup actuellement. Et je trouve que vos personnages, ils ont le dessin et le destin aussi des personnages de Sirk.
C'est vrai, j'ai jamais osé. Il y a des influences inconscientes toujours, c'est vrai. Mais Douglas Sirk ne faisait jamais partie de ces cinéastes dont j'oserais évoquer l'influence. Moi, je pense plus à des gens. J'ai été habité par beaucoup d'Italiens, d'ailleurs, étrangement. Visconti, Rossellini, Pasolini, qui m'ont bouleversé. Mais c'est vrai que Douglas Sirk, ses films m'ont absolument bouleversé. Et quand je vois, vous n'avez pas tort, parce que moi, j'y pense même, quand je vois Layla à certains moments, j'ai l'impression que c'est une héroïne de Douglas Sirk. Quand elle conduit sa voiture à la fin, on est entre Hitchcock et Douglas Sirk. Absolument, je suis d'accord. Mais ça n'a jamais été posé, peut-être parce que j'ai une telle admiration pour Douglas Sirk, c'est tellement la perfection absolue du mélo. Mais ça me... Oui, c'est beau ce que vous me dites, parce que c'est vrai que j'y pense parfois comme ça, en voyant certains plans, je me dis, ah ouais, on dirait comment elle est habillée, sa coiffure, son regard, ce mélo qui l'entraîne comme ça. Oui.
Le personnage de Layla, par moments, elle m'a fait penser un peu à Madame Bovary. Est-ce qu'il y a un peu de bouvarisme aussi chez elle ?
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a un plan où la petite lit Madame Bovary, vous l'avez vu. Avant de commencer à écrire ce film, j'ai relu Madame Bovary et j'ai commencé à travailler sur le personnage de Layla en m'inspirant de Madame Bovary. C'était une inspiration tout à fait directe, revendiquée. Et, sauf que plus j'écrivais, plus elle s'en éloignait. Et il n'y a plus de Madame Bovary en Layla, du tout, du tout, du tout. Mais vraiment, je pense qu'il n'y en a pas, parce qu'elles n'ont rien à voir ensemble, rien. Sauf que c'était absolument mon point de départ, mais au fur et à mesure de l'écriture du scénario, Madame Bovary est partie, elle s'est éloignée. Et est apparue cette héroïne beaucoup plus moderne pour moi que Madame Bovary, parce qu'il n'y a pas d'amour chez Layla, elle n'est pas amoureuse de Pierre, de ce Français pour moi. Elle s'en fout. Elle veut juste voyager, elle veut juste partir, elle veut juste... Mais c'est tout à fait juste ce que vous dites. Je suis parti de Madame Bovary, et c'est elle qui s'est éloignée.
Alors, on a un portrait du Liban à la fin des années 50. Alors tout à l'heure, j'ai parlé du point de fer dans un gant de velours. Quand on pense au Liban actuellement, qui est un désastre absolu, aussi bien humain, politique et tout, quand on voit ce film, on se dit, mais c'est un véritable paradis perdu. Surtout qu'à un moment, on voit des documents d'actualité qui montrent le Liban à l'époque, mais c'était Las Vegas, le Liban, enfin voilà.
C'est tout à fait juste. C'est tout à fait un paradis perdu, le Liban. Pour moi, en tout cas. Hein. Sauf que les paradis perdus sont rarement des paradis. Les paradis perdus sont plus l'enfance qui est perdue qu'un paradis. Parce que si on gratte un peu, les enfances ressemblent rarement à des paradis. Et je crois que ce Liban perdu ressemble à ça. Pour moi, en tout cas. Après, c'est vrai que d'autres qui ont connu le Liban dans ces années-là diront que c'était un vrai paradis. Hein. Bon, moi, je ne l'ai pas connu comme ça. Mais pour moi, c'est un paradis perdu absolument, comme le paradis perdu de l'enfance, qui ressemble rarement à un paradis.
Une belle carrière au film.
Merci. Merci beaucoup.